Bastien Drue nous rejoint, il est 15h46, économiste CPRM. Bonjour Bastien, bienvenue.
Bonjour.
Vous allez rendre votre verdict là face à ces marchés et avant la fête ce soir. Ce verdict que vous allez rendre, ce moment qu'on va vivre ensemble, est-ce que vous l'assumez ?
Ah, tout à fait.
On vous écoute.
Ben pour Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, les débuts vont être très difficiles.
Ah tiens, alors là, voilà, verdict sans appel, ce sera très difficile pour Kevin Warsh ce soir. Pourquoi ce sera si difficile ?
Ben, Kevin Warsh a été choisi par Donald Trump pour baisser les taux directeurs. Et il est quand même assez probable que ce soit très difficile pour Kevin Warsh de baisser les taux directeurs sur les mois qui arrivent. Alors la première chose qu'on pourrait dire, c'est que les décisions de taux directeurs, c'est pas une seule personne qui les prend, c'est un groupe de personnes qu'on appelle le FOMC. Il y a 12 personnes dans ce FOMC, donc Kevin Warsh ne sera que l'une de ces 12 personnes, et probablement elle ne trouvera qu'un seul allié dans ce FOMC pour baisser les taux sur les mois qui arrivent. Donc rien que pour ça, les choses seront un peu difficiles. Ensuite, il y a le contexte macro-financier. On a une inflation qui a quand même accéléré sur les derniers mois. Le dernier chiffre qu'on a, c'est une inflation à 4,2% aux États-Unis sur le mois de mai. Donc, une inflation qui est bien au-dessus de la cible de 2%. Mais surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'inflation, ça fait maintenant 5 ans, ça fait plus de 5 ans, qu'elle est au-dessus de la cible des 2% de la Fed. Donc, en fait, la Fed doit faire attention à tout. Tout simplement parce que l'inflation est restée au-dessus de la cible pendant 5 ans.
C'est ça, c'est-à-dire que la hausse des cours du pétrole est venue ajouter de l'inflation à une inflation qui existait déjà.
Qui était déjà relativement élevée, en tout cas au-dessus de la cible. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que la Fed, elle a un double objectif. Elle a deux mandats. Il y a la stabilité des prix et il y a le plein emploi. Et là, dernièrement, les rapports sur l'emploi ont plutôt été bons. Ça fait 3 fois qu'on a un rapport sur l'emploi qui est plutôt pas mal. Et sur les 3 derniers mois, il y a eu des créations d'emplois pour plus d'un demi-million. Et là, l'argument qu'il pouvait y avoir en début d'année de peut-être baisser les taux parce que le marché du travail ne se tenait pas très bien, il s'est un peu dissipé finalement sur les derniers mois. Et là non plus, il n'y a pas de raison de baisser les taux. C'est pour ça que je dis que pour Kevin Warsh, les débuts vont être difficiles.
Mais non seulement vous n'attendez pas de baisse de taux, mais un statu quo, c'est le pari du marché. Mais est-ce qu'une hausse de taux même serait nécessaire ? Hier, Christian Bitteau nous disait « Ah, une hausse de taux, c'est pas urgent, mais peut-être que pour les questions de crédibilité, pour asseoir sa crédibilité, Kevin Warsh, c'est quand même sa première décision de politique monétaire comme président de la Fed, ce serait bien qu'il en fasse une, mais une petite, alors pas forcément 25 points de base, allez, 15 points de base. »
Non,
pour le symbole, pour la crédibilité.
J'y crois pas du tout. Il vient d'être nommé par Donald Trump, et si le FOMC remontait et tout directeur, on peut imaginer que le lien qu'il peut y avoir entre Kevin Warsh et Donald Trump se romprait quasiment instantanément.
Mais c'est grave. C'est grave,
pour Kevin Warsh, ça pourrait être...
C'est pas grave, mais est-ce que c'est grave ?
On a pu voir ce qui s'est passé sur les dernières années entre Jerome Powell et Donald Trump, et ça serait une situation quand même très inconfortable pour lui. Ce qu'on pourrait dire peut-être aussi, c'est que Kevin Warsh, il arrivait avec une sorte de corpus idéologique qui disait que l'intelligence artificielle allait amener de la désinflation. C'était son gros argument pour dire qu'il fallait que la Fed baisse ses taux. En revanche, ce qu'on peut voir sur les derniers mois, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt que le cycle d'investissement dans l'IA a peut-être produit des tensions inflationnistes. Je pense aux semi-conducteurs. On a les prix à l'importation aux États-Unis qui sont sortis hier. Et en fait, si on regarde depuis le début de l'année, le prix des semi-conducteurs importés par les États-Unis a augmenté de 26%. Donc en fait, ça faisait 40 ans que le prix des semi-conducteurs n'arrêtait pas de baisser, et tout d'un coup, ça a baissé de 26% depuis le début de l'année, et ça a des répercussions sur le prix de pas mal de produits électroniques comme les smartphones ou les ordinateurs par exemple. Et si on regarde le prix des ordinateurs importés aux États-Unis depuis le début de l'année, il a augmenté de 7% aussi. Donc on voit que finalement, alors que Warsh pensait que l'IA apporterait de la désinflation, on a plutôt eu une petite accélération.
Et alors, il voudrait aussi changer la grammaire de la Fed, moins communiquer, moins de conférences de presse, peut-être la fin des dot plots également, enlever de la visibilité au marché pour rendre à la Fed plus de marge de manœuvre. Est-ce que ça peut être malin ?
C'est quelque chose qui pourrait être fait. Maintenant, quand je vois cette déclaration dans laquelle il dit que il veut pas que la Fed essaye de tout expliquer, ça me fait un petit peu peur parce que là, on avait quand même une Fed qui expliquait à peu près de façon raisonnable ce qu'elle faisait, sans trop en dire non plus sur son état d'esprit. Donc, c'est quelque chose qui fait peut-être un petit peu peur.
Et pendant ce temps, le pétrole baisse nettement. On est à 79 dollars aujourd'hui pour le baril de Brent. L'Agence internationale de l'énergie a publié ses nouvelles prévisions quant à la demande mondiale en pétrole. Ben, elle abaisse sacrément sa prévision de demande mondiale en pétrole pour cette année. Vous y voyez le signe d'une moindre croissance économique ou d'une décarbonation, d'une transition énergétique accélérante?
Alors, je pense que...
Vous allez me dire les deux, mais en vrai...
Alors, c'est sûr qu'il y a les deux, mais en réalité, c'est surtout l'équilibre de prix qui fait que la demande augmente moins. On a des prix du pétrole qui sont plus élevés qu'en début d'année, donc forcément une demande qui progresse moins. Et c'est surtout de ce côté-là qu'il faut voir les choses, quoi. C'est vraiment cet équilibre de prix qui peut faire que on peut se retrouver avec un surplus d'offres finalement d'ici quelques trimestres.
Alors, cela dit, les cours qui baissent, ça peut peut-être faire nos affaires, nous, en Europe. On voit que les prévisions de croissance sont quand même réduites très nettement, en particulier chez nous en France. Ça peut peut-être nous rendre service.
Bien sûr. Là, pratiquement, la seule raison pour laquelle la prévision de croissance de la France a été abaissée par la Banque de France, et quasiment la seule raison pour laquelle les prévisions de croissance de la zone euro ont été abaissées par la BCE, c'est la hausse des prix du pétrole. Donc, si on a une décrue des prix du pétrole, effectivement, on pourrait imaginer que la croissance, finalement, soit peut-être un tout petit peu plus forte que prévu.
Oui, mais cette baisse des cours du pétrole ira-t-elle beaucoup plus loin que ce qu'on a déjà observé? Là, on est à 79 dollars le baril. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, répondait tout à l'heure aux députés. Il répondait dans une session de questions-réponses au Parlement. Et il a expliqué que même si le détroit d'Ormuz rouvrait aujourd'hui, un retour à la normale d'ici n'arriverait pas, un retour à la normale avant 6 mois à 1 an. Il a donné l'exemple de Total Energy. Il dit, nous avions 11 pétroliers bloqués dans le Golfe par la fermeture du détroit d'Ormuz. Nous en avions 11. On a réussi à en sortir 3. On va tous les sortir. Mais pour les ramener dans le Golfe, on va quand même regarder à deux fois, vérifier que la paix est vraiment installée. Donc, le pétrole n'est pas forcément prêt à couler à flot sur le monde.
Il y a des facteurs contradictoires. Ce qu'on peut voir, c'est que là, actuellement, dans le Golfe Persique, il y a à peu près 160 millions de barils qui attendent d'être sortis. Donc ça fera un effet un peu d'encombrement, peut-être, dans les raffineries. Après, c'est très clair que la production dans les pays de l'OPEP mettra quand même pas mal de temps à revenir à son niveau d'avant-guerre. On estime généralement que ça remettra au moins jusqu'à la fin de l'année. Il faudra au moins attendre jusqu'à la fin de l'année pour avoir un retour de la production des pays de l'OPEP à leur niveau d'avant la guerre.
Et pendant ce temps, les devises. Quand même, l'euro a pas mal, ou le dollar a remonté depuis ses plus bas, largement. On était à l'euro 1,19 il y a quelques semaines. Maintenant, on est à 1,16. Bon, d'après le FT, les investisseurs se ruent sur les paris haussiers sur le dollar. Pourquoi? Parce que les investisseurs parient sur le retour de l'exceptionnalisme américain.
Moi, j'y crois pas. En fait, ce qu'on peut voir sur les derniers mois, c'est que la parité euro-dollar, il y a deux déterminants. Il y a les prix du pétrole. Le dollar est très corrélé positivement au dollar. Donc là, actuellement, le fait que le pétrole baisse, ça devrait plutôt faire baisser le dollar. L'autre déterminant, c'est le différentiel de taux d'intérêt entre les États-Unis et puis l'Europe. Et actuellement, enfin sur les derniers jours en tout cas, les taux américains ont peut-être baissé un peu moins que les taux européens. Et ça a finalement freiné le mouvement de remontée de la parité euro-dollar.
Oui, et vous voyez la suite comment? Du coup, c'est toujours difficile de prévoir l'évolution des changes. Mais est-ce que vous estimez que là, on est à peu près sur le niveau d'équilibre entre l'euro et le dollar ou que l'euro doit poursuivre?
Si on regarde sur plusieurs décennies, finalement, qu'on fait une sorte de moyenne de long terme, on voit que le dollar, finalement, est encore au-dessus de sa moyenne de long terme.
Bastien Dru, CPRAM, et donc votre message pour Kevin Warsh, les débuts ce soir seront sans doute compliqués à la tête de la Fed et sa première conférence de presse à suivre à partir de 20h30. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bastien, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Dans quelques minutes, Culture Bourse, une idée de valeur en plus. Si vous souhaitez compléter vos portefeuilles boursiers, ce sera avec les experts d'Erasmus Gestion qui nous feront découvrir une valeur européenne, selon eux, à fort potentiel. Rendez-vous à 16h10 pour la découvrir.